Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h43, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France.
Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour Patrick Roger.
La condamnation de Nicolas Sarkozy, justifiée ou trop sévère au regard des accusations du parquet national financier ?
Écoutez, moi je ne suis pas juge, je suis incapable, je ne vais pas refaire le procès.
Non, bien sûr.
Il peut faire appel, il a fait appel. La seule remarque que j'ai, c'est que j'ai quand même le sentiment qu'il y a un peu de poids de mesure et j'aimerais que de temps en temps, la justice s'occupe aussi des affaires de la Macronie. C'est curieux, c'est toujours les affaires des opposants. Voilà, c'est la seule remarque.
Ferrand,
que je...
Bayrou,
eh ben justement, ça
la justice
jamais.
Comment... Non, mais la justice avait a commencé quand même.
Elle a commencé,
s'en occuper.
Mais c'est curieux, il n'y a pas le même rythme. Ouais. J'ai le sentiment et pas la même célérité. Voilà. Donc, pour être sérieux.
Mais ce que vous voulez dire, Nicolas Dupont-Aignan, derrière ça, c'est qu'il y aurait la Macronie derrière.
Bah écoutez, c'est quand même incroyable. Benalla, Colère, Ferrand, l'ancienne ministre, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui n'a pas marqué les esprits des affaires sociales, les affaires de Las Vegas, vous savez, des.
Oui, Pénicaud.
Pénicaud. Oui. Enfin, il y a une succession d'affaires, entre guillemets, avec des débuts de procédure, et puis il n'y a jamais de suite. Et de l'autre côté, il y a toujours un certain camp politique, et c'est toujours les opposants. Et je pense que la justice devrait prendre garde, parce qu'à un moment, elle ne peut pas dire « je suis une justice impartiale, vous devez respecter mes décisions », et puis qu'on ait le sentiment, et les Français ne sont pas idiots, que ça tape toujours d'un côté. Après, sur l'affaire Sarkozy en soi, comme les autres affaires, je m'astreins à ne pas jouer au juge. Je ne suis pas juge. Je ne peux pas vous dire, il fait appel, on verra le résultat de l'appel.
Oui, l'avenir de Nicolas Sarkozy, quoi qu'il en soit, semble assombri sur un plan politique, non ?
Écoutez, il fait appel, je n'en
vous
sais rien.
Vous avez été adversaire politique, vous respectez quand
mais,
même ?
Mais attendez, on peut être adversaire politique, mais moi je déteste les hommes politiques qui, quand un concurrent ou un collègue est en difficulté, tout à coup va sur les plateaux pour l'accabler. Oui. Moi, je ne suis pas comme ça, c'est pas mon style.
Oui.
Donc, je respecte, bien sûr, Nicolas Sarkozy. Il se défend, il clame son innocence, il fait appel. Et bien, je souhaite que nous soyons dans un pays de justice, voilà. Et j'ai parfois une certaine inquiétude.
La justice est passée, là, elle n'a pas épargné les politiques, quoi, en tout cas.
C'est toujours les politiques du même côté.
Français qui réagissent,
peut-être,
par exemple, sur notre sondage.
Peut-être, mais je le comprends,
quoi.
Mais à condition que ce soit tous les politiques.
Oui, et votre avis sur le parquet national financier en lui-même et son fonctionnement ?
Qu'il y ait eu un parquet national financier pour des grosses affaires très compliquées, vous savez, des affaires international, avec des enjeux financiers qui se comptent en milliards et qui exigent une technicité.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a besoin que toutes les affaires connues ou de non-connues ou de personnalités passent par un seul parquet ? Est-ce que cela n'affaiblit pas, en fait, la justice ? Pourquoi des affaires simples ne devraient-elles pas être partagées ?
Telle que celle de Nicolas Sarkozy.
Bien
alors
sûr,
elle était simple, elle était compliquée quand même, parce qu'il y avait plusieurs échelons. Quoi.
Oui, d'accord, mais enfin ce n'est pas non plus... Donc je trouve malsain cette histoire d'un parquet national financier qui concentrerait obligatoirement toutes les affaires des personnalités. Oui. Parce qu'en fait, on affaiblit la justice, quelque part. On la suspecte, et ce n'est pas bon de suspecter la justice.
Oui. Est-ce que ça peut changer aussi l'échiquier politique à droite, avec peut-être, parce que pour certains, chez les Républicains, il y avait toujours le recours Nicolas Sarkozy, là ça semble quand même un petit peu plus délicat.
Je ne crois pas, d'une manière générale, que les Français aient envie de revoir au pouvoir ceux qui, d'une certaine manière, l'ont été. Et je crois que nos compatriotes attendent une autre politique, un autre cap, une nouvelle démarche, de nouvelles méthodes. Voilà pourquoi je ne pense pas que cette affaire change grand-chose sur le paysage politique. L'enjeu aujourd'hui, c'est la clarté des positions. L'indépendance nationale, pour moi, produire français, reconstruire nos services publics, restaurer l'ordre. Et je crois que les Français veulent tourner la page, quand même de toute la classe politique qui nous a laissé la France telle qu'elle est. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait en élisant M. Macron, et en vérité...
C'est-à-dire ils ont changé, là.
Ils ont repris le pire.
Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, quoi.
Mais en fait, M. Macron a rassemblé tous ceux qui avaient gouverné de gauche et de droite en même temps. et on voit le résultat. Donc moi je crois qu'il faut un changement d'orientation, pas seulement un changement de personnage.
Alors on
changement d'orientation.
Oui, on va y revenir peut-être
de projet.
Tout à l'heure. Sur la gestion de la crise sanitaire, Emmanuel Macron a ouvert une porte dans 4 à 6 semaines pour le début d'un allègement de mesures sanitaires. Olivier Véran a semblé plus prudent en disant qu'il n'est pas possible de desserrer l'étau des contraintes. Macron a l'air de vouloir résister aux alarmes un peu de son ministre de la Santé, Olivier Véran, vous le voyez comme ça ou pas ?
D'abord, pardonnez-moi, mais je trouve la situation un peu cocasse ou surréaliste, si ce n'est dramatique. Les Français ont besoin d'un cap.
Oui.
Où on va ? Comment on y va ? Et puis là, il y a une grande légèreté du président de la République. Il a interpellé, 4-6 semaines. Enfin, vous imaginez...
Lors d'une visite sur le terrain.
Non, mais une visite, 4-6 semaines, allez hop. Mais enfin, on est où ? On est au Café du Commerce ? Il est président de la République ? Ses ministres sont même pas au courant, ils rétropédalent, c'est la confusion la plus totale. Les mesures du week-end sont grotesques, à Nice et Dunkerque.
Pourquoi grotesque ?
Mais attendez, vous pouvez aller travailler ? Il n'y a pas de virus en semaine dans le tramway de Nice, où les gens sont comme ça, et entassés. Il n'y a pas de virus au travail. Et puis il y a un virus le week-end, là où il pourrait prendre le grand air, et où il devrait sortir. Mais c'est quoi cette société qu'on nous fait ? Quelle est la cohérence de tout cela ? Aucune cohérence. Oui. Et ce que je remarque, c'est quand même, on nous parle d'un troisième confinement. Nous sommes d'ailleurs dans un semi-confinement.
Oui, alors bon, c'est tout évident qu'il y ait ce troisième confinement. Le chef de l'État voudrait l'éviter, visiblement.
On est dans un feuilleton où personne ne sait où on va.
Oui.
Et ça fait quand même
un an... Sur l'ensemble de la planète.
Non, c'est pas vrai. Pardonnez-moi, Patrick Roger. Regardez, en Angleterre, il y a un cap. Il y a des dates précises, il y a eu une volonté. En Israël, il y a eu un cap.
C'est vrai. Il y a eu beaucoup de cafouillages. Il y a eu beaucoup de cafouillages en Angleterre et maintenant, ça va un peu mieux.
Regardez, même en Allemagne, Mme Merkel s'adresse pas au pays au détour d'une conversation en lançant un mot qui n'a aucun sens.
Oui.
Donc, moi, ce que je demande depuis le début, depuis un an, ça fait un an, c'est qu'on ait des mesures cohérentes par anticipation. J'avais proposé les masques, et notamment les masques FFP2 qui ne sont toujours pas distribués aux plus fragiles. J'avais proposé une politique vraiment précise sur les personnes vulnérables, c'est-à-dire qui ont des maladies, des comorbidités, car vous savez qu'il y a 80% ou 90% des personnes en réanimation qui souffrent de comorbidités. Et j'avais proposé d'augmenter les lits de réanimation et les lits d'hôpitaux, parce que notre personnel soignant est à bout. Et j'avais proposé que toutes les innovations en matière de soins, on les saisisse, on les partage, les diffuse.
Oui, de traitement. Non.
De traitement précoce.
Oui, oui.
C'est fait dans le monde entier.
Oui.
C'est bloqué systématiquement en France.
C'est-à-dire, alors qui bloque ?
Le ministre de la Santé, le ministère de la Santé, et donc le gouvernement.
Oui. Donc je vais vous donner des exemples. C'est Olivier Véran qui est au centre de vos...
J'estime qu'Olivier Véran, pour moi, doit démissionner. Il est responsable de la situation. Je vais vous donner un exemple, parce que j'ai repris.
Oui.
Et j'ai lancé sur Internet une pétition qui appelle à la démission d'Olivier Véran.
Sur quel motif ?
Sur des motifs qu'on enferme les Français, qu'on est un an après le premier confinement toujours dans la même problématique, et qu'il ne soigne pas, il ne permet pas d'avoir les soins précoces qui sont diffusés dans le monde entier, qui
sont heureusement prescrits. Dans le monde entier, ça ne va pas forcément beaucoup mieux, quand même, globalement.
Ah bah, si, excusez-moi.
Regardez, si on prend l'Europe centrale, juste à côté de chez nous, la République tchèque, les Balkans, et beaucoup d'endroits, ça ne fonctionne pas mieux. En Asie, je vous l'accorde, ça fonctionne beaucoup mieux.
Regardez le tableau des chiffres.
Oui.
Regardez le tableau des chiffres. Nous sommes un des pays avec la plus forte mortalité. Et je remarque, la vitamine D, l'Académie de médecine au mois de mai, prescrit la vitamine D, des médecins de tous horizons. On n'a toujours pas une politique nationale du ministère de la Santé pour lutter contre la carence de vitamine D chez nos anciens. On pourrait le faire. Vous savez que le dosage par les laboratoires n'est pas remboursé pour savoir si vous êtes en sous-carence. Deuxième point, l'azithromycine. Antibiotique connu de tous les pneumologues.
Oui.
Monsieur Salomon l'a déconseillé.
Oui.
L'a déconseillé par une circulaire.
Oui. Ça a été utilisé par certains médecins quand même.
Heureusement.
Oui.
Et je les remercie. Troisième point, l'ivermectine, qui est une molécule qui est utilisée en Slovaquie, tout près de chez nous.
Oui.
En Israël, le professeur Schwartz la recommande. Il y a des études randomisées en double aveugle qui montrent que l'ivermectine évite l'aggravation.
Dans certains la maladie. Cas, pas tous les cas, Nicolas Dupont-Aignan.
Mais donc Patrick Roger.
Non, mais bien sûr. Mais
j'ai jamais dit qu'il y avait une solution miracle.
Sinon, ça saurait, ce serait utilisé.
Mais c'est utilisé dans le monde entier, et ça marche. Je m'étonne.
Non, ça ne marche pas partout, Nicolas Dupont-Aignan. Vous ne pouvez pas dire ça, sinon...
Des dizaines d'études randomisées. Oui. Je peux vous citer des dizaines de pays qui l'utilisent, l'ivermectine. Pourquoi en France c'est bloqué? Et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, qui m'a le plus révolté, qui m'a conduit à lancer cette pétition pour appuyer les médecins qui prescrivent heureusement. Ouais. C'est l'Institut Pasteur de Lille. C'est pas n'importe quoi l'Institut Pasteur de Lille. Qui a une molécule qui a été obligée d'aller chercher de l'argent auprès d'LVMH. 6 millions d'euros. Donc, si LVMH a prêté 6 millions d'euros, c'est quand même qu'il y avait un enjeu. Une molécule pas dangereuse qui ferait, j'emploie le conditionnel, qui aurait une efficacité. Le 9 février, l'administration du ministère de la Santé refuse l'accélération des études. Alors, il y a un moment dans notre pays, moi j'en ai assez, qu'on enferme les Français, qu'on soit au jour le jour, qu'il n'y ait aucun cap, et qu'on n'augmente pas les lits d'hospitalisation, pas un lit de plus de réanimation depuis un an, et que de l'autre côté, on ne diffuse pas les pratiques de soins qui sont prouvées comme pouvant limiter l'aggravation des cas dans beaucoup de pays, avec des études randomisées en double aveugle partout dans le monde. Vitamine D pour la prévention, ivermectine, azithromycine, il y en a des dizaines les médecins emploient. Mais pourquoi on ne soigne pas en France? Pourquoi le ministère de la Santé bloque?
Bon, pourquoi c'est Olivier Véran alors que...
C'est lui qui est ministre de la Santé, et c'est lui qui insulte matin, midi et soir les parlementaires quand on pose des questions. J'ai posé une question, j'ai envoyé une lettre. Avec M. Philippot et M. Asselineau, d'ailleurs. Nous étions trois. Nous n'avons jamais eu de réponse. Mais une lettre très documentée, avec des études. Ce n'était pas une lettre politicienne, c'était une lettre de professionnel.
Il y a du mépris, alors vous...
Il y a plus que du mépris. Il y a une parlementaire qui a posé une question il y a trois semaines. M. Véran lui a répondu, vous recommandez de l'eau de Javel. Des soins qui sont proposés par des milliers de médecins, qui marchent ailleurs... et qui ne sont pas diffusés en France. La médecine de ville est complètement mise de côté. Je ne veux pas parler de santé aujourd'hui.
C'est important.
C'est extravagant.
Sur la vaccination.
Sur la vaccination, je vois que le gouvernement est incapable de vacciner les Français qui le souhaitent.
Oui.
Après, chacun son avis.
AstraZeneca pour les 65-75 ans.
Sans doute positif. Pour là, l'important, c'est quoi? C'est d'établir le bénéfice-risque pour chaque personne, ceux qui souffrent de comorbidité, et si on pense que le vaccin peut apporter une protection, pourquoi pas? Mais, attention, le vaccin n'empêche pas la transmission. La transmission, c'est écrit en gros sur le site Santé publique France.
Bien sûr. Toutes les recommandations qui
c'est
sont...
C'est pourquoi même le professeur Combes, même le professeur Schwartz en Israël disent on a trop misé que sur la vaccination, il faut aussi soigner. Il y a des millions de gens qui, heureusement, ont eu la Covid... et qui vont très bien.
Il y en a d'autres qui en souffrent toujours avec le Covid long, vous savez, parce qu'ils
ont été pris trop tard. Et la politique française disant « Doliprane, rentrez chez vous » est une folie.
Alors, Nicolas Dupont-Aignan, un mot de politique, parce que les régionales approchent. Jordan Bardella a confirmé sa candidature en Île-de-France. Est-ce que, finalement, vous allez faire une alliance ou pas?
Mais non, mais nous avons des listes
Déjà fait des alliances
avec Bardella au second tour pour éviter M. Macron. Debout la France est un parti gaulliste indépendant. On a vu le résultat du débat du second tour avec Marine Le Pen. J'en ai assez de voir Emmanuel Macron choisir son adversaire. C'est-à-dire choisir la personne qui lui permettra à lui d'être réélu.
Bon.
Et j'estime qu'il y a une autre voie possible. Donc en Ile-de-France, il y aura une liste Debout la France. Il y aura des listes Debout la France pour que nos soutiens puissent voter. Parce que je ne me résous pas à ce duel imposé que rejette d'ailleurs 80% des Français...
Mais ça, c'est pour la présidentielle.
C'est pareil. Il faut que les Français qui pensent qu'il y a une autre voie entre M. Macron qui abîme le pays et qui se comporte en amateur et Mme Le Pen qui ne gagne pas, il faudrait peut-être qu'il y ait une voie différente. Et c'est ce que j'essaie de proposer.
Dernière question avec Cécile de Ménibus.
Justement, parlons de voix différentes. Est-ce que Éric Zemmour, on parle d'Éric Zemmour à la présidentielle, est-ce que vous pourriez vous ranger derrière lui?
Mais écoutez, Éric Zemmour n'est pas candidat.
Tout le monde en parle, en tout cas. Beaucoup de gens en parlent.
Moi, je suis candidat.
Et
j'ai
7%
des voix dans les sondages, qui est quand même pas mal, avec 0,5% de temps d'antenne dans les médias. C'est pas mal. Et il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Mais il y a des personnalités comme Michel Onfray, Éric Zemmour qui ont un rôle à jouer. Mmh. Et si les candidats...
C'est plutôt eux derrière vous, donc.
Bah, écoutez, en attendant, moi je suis candidat, j'ai un projet, des soutiens. On verra ce que fera Éric Zemmour. Je suis tellement attaché à la liberté que je ne vais pas en vouloir à Éric Zemmour d'avoir des ambitions. Maintenant, pour l'instant, il n'est pas candidat. Or, être candidat à la présidentielle, c'est un travail de loin. Il faut préparer un projet. Il faut, je pense, être sûr de son projet, sûr de sa candidature. Je suis convaincu que notre pays peut s'en sortir, a des atouts incroyables. Je crois que notre pays a un idéal français à retrouver. Cet idéal, je le propose aux Français. Maintenant, on verra quand il y aura tous les candidats. Je ne peux pas deviner l'avenir. Je ne suis pas Madame Soleil avec sa boule de cristal.
Merci Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France qui était l'invité de
Sud Radio. Merci à vous de votre invitation.
Et dans un instant, le journal de 8h, à tout de suite.